观。
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo. Bonsoir Ludo.
Bonsoir.
Gilles au micro et bien sûr toujours Claude à la technique, comme toujours. Merci de nous écouter. Voilà, nous commençons cette émission par, évidemment, nous allons parler de ce qui intéresse presque tout le monde, voire peut-être pas du tout d'ailleurs. Ce sont les élections présidentielles. Nous parlerons donc de Macron, évidemment, de son programme économique, mais également de l'assurance chômage. Mais j'aimerais commencer cette émission par faire un petit coucou donc à un camarade qui nous a la semaine dernière nous a quittés. Nous venons d'apprendre effectivement le décès de notre camarade Gérard, frère de notre technicien Claude qui est derrière les manettes là actuellement. Gérard s'était engagé à nos côtés dans les années 2000 à agir ensemble contre le chômage et avait participé activement en tant qu'auteur à l'écriture collective de la pièce Le Par mise en pièce. Présenté au Voot la même année, donc en 2000, avec des chômeurs comme acteurs bénévoles. Avec sa licence d'enseignement d'art plastique, il fut professeur de photographie. Il obtint également un DEA de sociologie sur les modes de vie et les politiques sociales. Il participa également à la campagne de José Bové, sans oublier bien sûr qu'il fut notre documentaliste chaque vendredi pendant plusieurs années pour nous permettre de faire cette émission. Nous nous associons bien sûr tous, l'ensemble des gens qui sont dans cette émission, bien sûr à la peine de ses proches et de sa famille. Écoutons son intervention dans l'émission 368 du 5 juillet 2002.
Ce soir, je suis avec Gilles, Gérard, Thierry, bonsoir. Claude à la technique.
Bonsoir.
Bonsoir messieurs. Et donc Gérard est venu aujourd'hui nous parler du jugement qui a été rendu il y a 2 jours au tribunal de grande instance, un jugement qui a été donné suite à la plainte déposée par AC, la PACE, MNCP et la CGT, la section des intermittents du spectacle. Donc Gérard était sur les lieux. Et c'était une plainte donc qui portait sur le PAR, le plan d'aide
retour à l'emploi.
Merci bien, monsieur. Et donc on peut directement rentrer dans le vif du sujet. Et tu peux nous dire le jugement qu'elle a été.
Comment ça s'est...
Alors une fois de plus, la justice est un peu obscure dans son prononce.
Oui, elle a rendu un jugement qui nous paraît un peu contradictoire, qui ne nous satisfait pas complètement, loin de là même, puisque le principal que l'on demandait, qui était l'annulation de la convention du PAR, cette annulation n'a pas eu lieu. Au contraire, le PAR est confirmé dans son existence. Par contre, de bonnes brèches ont été taillées dans le plan du MEDEF. Et au vu de la physionomie de l'avocat du MEDEF, on sent que ça ne le réjouissait pas, dans la mesure où il y a eu condamnation sans qu'il y ait effet de suspension, condamnation aux dépens, condamnation à verser des sommes au syndicat et malheureusement sommes qui ne suffisent pas pour payer les avocats, mais il y a quand même une aide de ce côté-là. Et puis il y a 2 articles qui vont limiter énormément les effets néfastes du MEDEF et le plan qu'ils avaient de façon à rendre le PAR efficace. Donc pour résumer, dans un discours qui était juridiquement très très compliqué, le fait pour les ACEDIC de suspendre les allocations des chômeurs, que ça soit pour non-présentation, les défauts de pointage, qui avec les bornes électroniques ou avec le téléphone sont très, très extrêmement fréquents, pour ne pas avoir satisfait au questionnaire tous les 122 jours, etc. Le fait de suspendre est en lui-même illégal et est considéré, ce qui est très important, comme une sanction. Les ACEDIC, le MEDEF, la CFDT affirmaient qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire destinée et en effet, en cas de rétablissement des droits, la partie suspendue était reversée intégralement. Le seul problème, c'est que pour un chômeur qui gagne déjà évidemment très peu, le fait de suspendre à un moment donné son minimum pour vivre, pour payer son loyer, etc., risquait de le mettre à la rue et avait pour lui des conséquences extrêmement catastrophiques et était un outil de pression énorme qui permettait au MEDEF d'imposer n'importe quoi aux chômeurs. Donc, c'est considéré comme une sanction. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ils doivent utiliser la procédure normale qui passe par une plainte à la direction du travail, par la possibilité d'un recours pour les chômeurs pour lequel il peut être assisté par un membre, par un conseiller juridique d'une association de chômeurs, par exemple. Et c'est la direction du travail et en dernier recours le préfet qui seuls ont la décision de pouvoir radier.
Juste pour vous rappeler que dans le petit extrait que vous venez d'entendre avec donc Gérard qui nous parlait du PAR, il y avait donc Mario au micro. Mario qui est resté avec nous pendant 3 ans. On lui souhaite bonne chance pour la suite à Mario. Très bien, on va reprendre le fil directeur de cette émission. Comme nous sommes entre deux tours, puisque ce sont les présidentielles qui s'annoncent, entre un ultralibéral et un fascisme non pas doux mais très dur pour le coup, Ludo, suivi un petit peu le programme économique de Macron. Je pense qu'il est assez rude pour les chômeurs, j'imagine, et également pour les salariés. Enfin, je ne sais pas, mais dis-moi un petit peu plus.
Écoute, j'aimerais faire comme tout le monde en France ici, revenir sur le débat. Enfin, si tu es d'accord.
Bien sûr, on est là pour débattre.
Donc effectivement, je vais pas faire comme on vous fait la télé, c'est-à-dire pour dire que le débat était vraiment minable. C'est ce que disent les journalistes, en tout cas, pas au niveau, etc., etc., plein d'invectives et tout, et tout. Mais simplement, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on n'a pas eu un vrai débat de fond, ça c'est le moins qu'on puisse dire, ça s'est un peu vu. Et effectivement, on a eu la confirmation, et je le dis sciemment à cette antenne, pour les électeurs de Mélenchon qui seraient tentés pour voter Le Pen, il y en a, je sais, et qui serait tenté par voter Le Pen, simplement pour que Monsieur Macron ne gagne pas avec trop d'écart. Donc c'est dire aussi la détestation de ce que représentait de l'image qui colle à Macron, du banquier, tout ça, ce qu'il n'est pas forcément, mais parce qu'il a été, du financier en tout cas. Et donc je le dis sciemment, en fait le Front National, et on n'en a jamais parlé à cette émission. C'est-à-dire qu'on a fait tous les programmes, en dehors de celui de Mélenchon, dont on a beaucoup parlé auparavant, et de celui de Poutou, mais pas celui de Le Pen. Et pour nous, c'était une évidence qu'on n'a pas à parler du programme de Le Pen, parce que Le Pen, dans cette émission, n'existe pas politiquement. Pour nous, c'est-à-dire, évidemment, il y a 20% qui a choisi de voter pour lui, mais voilà, pour nous, c'est... un parti qui est un parti attrape-tout, c'est-à-dire
pour nous c'est une aberration carrément pour le.
Alors déjà sur le plan des idées, bien sûr que on se situe à l'extrême opposé du Front National, ça c'est évident, et donc ça se discute même pas sur le plan des principes, des droits des immigrés, tout ça. Et donc effectivement, on n'en parle pas à cette émission parce que on voit pas ce qu'on pourra en dire, tellement on est consterné par la position. Mais surtout, vous avez tous remarqué qu'il y a eu au cours de ces dernières années sous Marine Le Pen, il y a eu un virage à gauche. Qui a été initié par Monsieur Florian Philippot.
Absolument.
Et c'est pas un hasard, Monsieur Florian Philippot est issu, tout le monde le sait maintenant, est issu de Jean-Pierre Chevènement, du mouvement de Jean-Pierre Chevènement. Il l'était en 2002, il a reconnu qu'il était à plus ou moins l'état-major, mais dans l'assistance du mouvement de Monsieur Chevènement au moment de l'annonce de la défaite de Lionel Jospin, et que la situation l'a amusé. C'est ces mots exacts. Il dit, il va y avoir du sport. Voilà. Et effectivement, parce que il fait partie de ces gens qui sont des souverainistes dans l'âme, même en étant de la gauche. C'est-à-dire qu'ils ne, idéologiquement souverainistes, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas que le France ait disparu, que l'Europe existe et puisse imposer ses normes. À cette émission, on a beaucoup critiqué l'Europe, énormément, notamment les effets amplificateurs sur la crise, le traitement de la Grèce, un peu la technocratie européenne, mais on n'a jamais été, on n'est pas anti-européen et on n'est pas souverainiste en tant que tel, ce qu'est vraiment Monsieur Philippot. Monsieur Philippot a non seulement a initié c'est devenu le stratège de Marine Le Pen, a initié ce virage à gauche en direction des classes populaires, entre guillemets, qu'on appelle populaire, c'est un mot voilà qui est assez abject, enfin moi que j'aime pas du tout, mais en direction des gens qui étaient vraiment des victimes de la crise, qui étaient touchés de plein fouet par la crise depuis des années, et il a réussi cette synthèse, c'est-à-dire à la fois d'une xénophobie latente que parfois on a du mal à expliquer. Je veux dire, le Front National fait ses meilleurs scores dans les villages où il n'y a pas un émigré. Parfois dans la France profonde, et il fait 5% à Paris, on a regardé les chiffres récemment, il fait 5% dans le 18e, 5% dans le 19e, 5% dans le 20e.
Il fait entre 4 et 6% dans tous les arrondissements de Paris.
Voilà. Et bon, et oui, si vous êtes dans le 19e, dans le 20e et dans le 18e, j'imagine qu'il y a des habitants qui ont bien plus de raisons de voter Front National que dans la France profonde. Ça, c'est sûr. Et dans les grandes métropoles, il n'y a aucun doute. Et pourtant, c'est là que son score est le plus faible, à part Marseille, éventuellement, et encore. Franchement. Donc il y a un fond profondément xénophobe dans ce parti qui s'explique parfois difficilement, qui s'explique par la télé, qui s'explique par autre chose, hein, par un mal-être, par la pauvreté dans les campagnes, c'est sûr. Monsieur Philippot a réussi la synthèse, c'est-à-dire en parlant, en gauchisant le discours du Front National, en parlant effectivement de services publics, de désindustrialisation, de pauvreté, et donc il a repris, on peut dire qu'il a pillé littéralement tout le discours de l'extrême gauche, y compris sur l'Europe. C'est-à-dire qu'il est allé s'inspirer de tous les arguments d'Emmanuel Todd, de Frédéric Lordon, toute la critique qui vient de loin.
La critique constructive en plus, enfin,
constructive, ouais. Mais voilà, sur le mécanisme, enfin, qui vient aussi d'économistes, enfin finalement sérieux, puisqu'ils ont eu raison avant les autres, concernant la crise économique et les problèmes de l'euro. Et donc il a intégralement pillé le programme du Front de gauche à une période, et ben c'était désespérant, puisque le Front national était vraiment en tête, je pense notamment aux élections européennes récemment, où les scores de Mélenchon étaient vraiment pas bons. Il se trouve qu'enfin le parti de Jean-Luc Mélenchon a réussi à gagner les classes populaires. Il a réussi à dépasser le cadre de la gauche traditionnelle, hein, qui est celle des professeurs, des services publics. Et donc Marine Le Pen a commencé son discours par une envolée lyrique qu'aurait presque pu tenir Mélenchon. Hein, voilà. Mais voilà, le truc s'est effondré de lui-même, j'ai envie de dire, au moment du débat. Parce que d'abord, Marine Le Pen était
dans l'invective, dans la haine presque.
Voilà. Donc déjà, bon, évidemment, il y a ce rapport. Enfin, c'est consubstantiel au Front National. Hein. Je suis persuadé que Monsieur Mélenchon aurait eu 3 fois plus de tenue ou 15 fois plus de tenue que Marine Le Pen, et qu'il aurait dû 15 fois des choses qui étaient bien plus intéressantes.
J'ai une explication à ça, c'est que alors on peut ne pas être d'accord avec moi, c'est évident. J'ai pas la science infuse. Hein. Mais j'ai une explication à ça, c'est que je pense que Marine Le Pen a pris cette façon de faire, enfin, à Trump d'ailleurs, qui lui, aux États-Unis, n'avait pas grand-chose à dire au niveau du fond, donc n'a basé toute sa campagne que sur sa forme, hein, avec des insultes, etc. Mais c'est la même chose pour Le Pen, c'est-à-dire Marine Le Pen, en fait, elle a, soi-disant, un programme que je n'ai pas lu et qui m'intéresse pas déjà à des masses. Mais en fait, elle n'a pas pu non plus approfondir son débat, parce qu'elle a passé son temps à contredire Macron, à lui dire qu'il disait que des contre-vérités, alors que c'était elle qui en disait, des contre-vérités. Parce que en fait, il n'y a pas de fond non plus surtout, dans le programme Le Pen, a priori.
Alors surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est en tout cas dans la bouche de Marine Le Pen, ça se voit que c'est un programme d'emprunt.
Oui, c'est ça.
Ça se voit moins chez Florent Philippot, qui est quand même assez isolé, hein, dans son parti, malgré tout. Je veux dire, il faut voir la tentation très très à droite et voire d'extrême droite de tous les cadres du parti, qui sont pour certains des anciens de Bruno Maigret, c'est-à-dire encore plus à droite, des gens du GUD.
Oui, oui.
Voilà, ils ont parlé
Occident et d'autres groupes.
Exactement, bien sûr. Qui sont à l'origine de la création du FN, et puis Marion Maréchal Le Pen, hein, voilà, l'autre tête de gondole contrôle de, du FN. Mais en soi, on a bien vu quand même que Marine Le Pen, c'est un discours d'emprunt. Qu'en fait, qu'elle maîtrise pas très bien les sujets sociaux, les sujets économiques, c'est le moins qu'on puisse dire, et que l'Europe, hein, en dehors de il faut revenir au front, bah, y a pas vraiment de fond. Et évidemment, on l'aurait moins vu avec Florent Philippot, hein, mais là, ça s'est vraiment vu. Et j'ai envie de dire, bah, c'est tant mieux parce que voilà, parce qu'on sait, ce qu'est le FN. Le FN, on l'appelle le parti caméléon dans les municipalités. Exactement. C'est celui qui s'adapte, en fait, au terrain, qui tient tous les discours, qui l'arrange, effectivement, qui reprend les critiques des gens, mais qui est un parti, bon, qui a jamais, jusqu'à maintenant, hein, enfin, jusqu'aux élections, aux récentes élections municipales, n'a jamais été capable de gérer correctement une mairie.
Absolument.
Toutes les mairies du Front National se sont effondrées. Et donc, voilà. Et donc, ce qui est agaçant pour la gauche de la gauche, c'est qu'au fond, 45% des électeurs ont voté contre l'Europe, quelque part, hein, c'est-à-dire c'est un retour du refoulé, j'ai envie de dire, du vote raté de la constitution contre la Constitution européenne de 2005. C'est-à-dire que c'est une question que le Parlement, le Congrès, a évacuée en catimini.
Absolument.
Et qui revient à l'occasion de la crise, 12 ans plus tard, j'ai envie de dire par la fenêtre et en force. 45% des électeurs, c'est énorme. C'était presque effectivement un référendum pour eux contre l'Europe. Bon, j'exagère, parce qu'effectivement, hein, les forces anti-européennes ne pouvaient être que dispersées de toute façon. Mais il est dommage qu'on ait eu, en termes de débat présidentiel, ce débat-là sur l'Europe et sur l'économie. C'était quand même assez pathétique. Et Macron a été quand même... a été pas terrible, même en tant que représentant de, même en tant qu'europhile. On a eu je vais prendre juste deux exemples, hein, qui m'a frappé. Vous voyez, on entend dire dans les, récemment, alors Monsieur Macron lui-même, mais on a entendu dire à France Inter qu'au fond, la construction, enfin, l'euro, qu'on avait fait l'euro, parce que le chômage en France était vraiment trop important. Et puis que, ma foi, c'était l'euro qui avait fait baisser le chômage. Il faut dire à ce micro que c'est une contre-vérité absolue.
Oui.
C'est-à-dire qu'effectivement, M. Mitterrand, lorsque son programme de relance a échoué au début, en 81, 82, 83, et qu'il était obligé de revenir à un plan de rigueur, il n'a eu comme plan de rechange que l'Europe. C'est-à-dire avec cet espoir de pouvoir... Puisque la relance, la politique de relance qui avait été mise en œuvre par la France était seule, en fait, était une politique de relance qui arrivait à contre-courant par rapport aux autres pays, notamment aux pays anglo-saxons et même aux pays allemands, la relance en France ne pouvait être que contre-productive. On l'a tous vu, alors qu'elle a un peu mieux marché que dans d'autres pays. Et parce qu'il était isolé, il n'a eu que comme alternative, enfin, il n'a vu que comme alternative de se rallier effectivement à l'Europe en espérant faire changer l'Europe dans un sens social, parvenir à harmoniser. Bon, ça, on connaît la suite. Ça a été quand même sur un plan social, c'est plutôt un échec puisque l'Europe n'a pas de normes sociales communes, n'a pas de base d'imposition commune, n'a pas voilà, il y a une concurrence fiscale. Bon, bref, je vais pas revenir là-dessus. En tout cas, dans les années 90, ce qui est certain, c'est que la hausse du chômage est liée à la politique de convergence des monnaies pour la création, en vue de la création de l'euro.
Absolument.
Et ça, des gens comme Monsieur Jacques Delors ou Monsieur Madelin, qui sont quand même pas des gens du même bord politique, hein, du sache, dont Madelin d'ailleurs fait partie des soutiens de Monsieur Macron aujourd'hui, l'ont dit et le reconnaissent aujourd'hui. C'est bien le mark allemand trop fort sans être technique, qui a fait qu'en France, les taux d'intérêt élevés, on était obligé d'appliquer des taux d'intérêt qui étaient similaires, qui ont ralenti l'activité économique et qui ont provoqué une hausse du chômage telle qu'on n'en avait jamais connue en France, au point qu'on atteigne le pic de 12% de la population active en 97. Il y avait moins de chômeurs en 1997, mais par rapport à la population active,
c'était
et par rapport à la façon dont étaient comptés les chômeurs, le taux de chômage était plus élevé qu'aujourd'hui. Bon, il y a eu un recul depuis, certes. Mais on a connu la plus forte hausse du chômage entre les années 90 et 97, et c'était en partie, et en grande partie, même s'il y avait la crise, liée à l'euro. C'est une contre-vérité de dire que la France a fait l'Europe parce que parce que son taux de chômage était trop élevé. Le chômage a augmenté partout. Il a augmenté, certes, moins en Angleterre, puisque la politique thatchérienne, mais enfin, dans un premier temps, l'Angleterre partait quand même de beaucoup plus haut. Et en Allemagne, on a vu dans les années 2000, bah oui, on était à 5 millions de chômeurs. Excusez-nous, hein. Et l'Allemagne, c'est parce que sa politique, elle a mené une politique très particulière qui l'a conduit aujourd'hui à avoir un taux de chômage bas. Mais c'est pas l'Europe qui a fait baisser le taux de chômage. Peut-être a-t-elle évité de le faire augmenter un peu plus, hein, on ne sait pas, en termes de création de postes. Voilà. L'autre question, c'est les histoires de monnaie.
Non, mais on a le temps.
Alors, les histoires de monnaie, bah oui, au moment de l'euro, il y a des gens qui étaient favorables, non pas à la monnaie unique, mais à la monnaie commune. Et je m'explique, la monnaie commune, c'est pas la monnaie unique. La monnaie unique, c'est la même pour tout le monde. La monnaie commune, comme l'a très mal dit Marine Le Pen, mais elle l'a dit, la monnaie commune, c'était une monnaie extérieure à l'Europe qui servait d'échange entre les pays pour le commerce extérieur européen, mais chaque pays aurait gardé sa monnaie avec un taux fixe, on va dire. Et du coup, ça aurait permis, si vous voulez, aux pays de ne pas totalement perdre en compétitivité les uns par rapport aux autres, hein, c'est-à-dire de respecter le poids monnaie économique de chaque pays qui s'évalue à travers sa monnaie. Et éventuellement, peut-être que le mécanisme qui a été envisagé à l'époque a été éventuellement qui est un mécanisme très idéaliste et dont personne ne veut, mais qui est proposé par Keynes, c'est-à-dire en fait de se rembourser mutuellement ses excédents commerciaux,
ouais, bien sûr,
commerciaux, ouais. De façon à garantir une stabilité entre les monnaies et éviter les déficits. Et donc, j'imagine qu'il y avait un mécanisme central qui permettait une espèce de pot commun, une monnaie de compte, qui permettait effectivement d'équilibrer les balances commerciales entre les pays européens. Donc en tout cas, cette option n'a pas été retenue, et on se retrouve effectivement avec un euro qui crée des disparités de compétitivité entre pays. On sort de l'euro, tous les efforts de réduction de salaires qui ont été faits en Allemagne depuis 5 ou 6 ans pour gagner en compétitivité disparaissent d'un coup, parce que le mark se réévalue, ou le franc plutôt se dévalue. Et tout simplement, on se retrouve avec des barrières douanières. Bon, tout le monde sait ça. Monsieur Macron, la démonstration de Monsieur Macron, il n'y avait pas de démonstration. Il n'y a rien eu.
Voilà. Non, mais pour revenir au programme Le Pen, il faut quand même, tu l'as rappelé tout à l'heure, que les mairies lepenistes ont été gérées n'importe comment, puisque j'ai eu une expérience personnelle, mais je ne vais pas raconter l'expérience automatiquement, mais moi, j'ai vu de mes yeux, en fait, dans une mairie lepéniste, hein, c'était Marignane, hein, à côté de Marseille, un mariage fait par une mairesse lepéniste, et en fait, elle ne savait pas comment faire le mariage, donc c'est un agent de sécurité du groupe Le Pen, qui avait autorité sur la mère, donc qui lui a dit faites ci, faites ça, avec une façon de parler qui était... qui est connu au Front National, c'est toujours autoritaire, c'est toujours des invectives. Hein. Et donc, ça m'a choqué à l'époque. Et je me suis rendu compte, en regardant un petit peu plus près par Internet et ailleurs un peu plus tard, qu'en fait, toutes les mairies lepénistes, en fait, comme Orange et d'autres, sont tenues par des gens qui n'y connaissent pratiquement rien et qui, en fait, font pression sur sur des intellectuels qui les entourent, qui sont leurs adjoints. Et les mecs, stressés et complètement sous pression, finissent par démissionner. Donc il y a 30% des conseillers municipaux lepénistes, dans toutes les villes Le Pen, hein, de Le Pen, hein, qui démissionnent et pour arrêt maladie, etc., etc. Et donc c'est géré n'importe comment. Alors si Mme Le Pen prend le pouvoir demain...
qu'on ne souhaite pas.
Ce qu'on ne souhaite absolument pas. Nous supposons quand même que nous aurons un gouvernement sous pression et ça risque de faire n'importe quoi. Enfin... Il y a des risques, d'abord pour les libertés publiques, hein, pour les libertés publiques, il y a des risques. Il y a des risques pour l'économie aussi, parce qu'effectivement, tu viens de l'expliquer, le programme économique de Le Pen n'est pas tellement au point, finalement. Par contre, il y a une autre question que je me posais, c'est qu'à l'inverse, c'est d'où la difficulté du choix entre les deux présidentielles de dimanche, c'est qu'à l'inverse, Macron, lui, qui apparemment est beaucoup plus précis dans son programme, lui a un programme... ultra-libéral, c'est-à-dire qu'on l'a connu sous Hollande avec la loi Macron 1, la loi Macron 2, le CICE, enfin toutes ces trucs-là, plus la loi El Khomri. Eh ben écoute, je comprends que Mélenchon ne donne pas de consigne de vote, parce que franchement, là, moi, des deux côtés, alors c'est pas la même peur, hein, mais des deux côtés, j'ai peur quand même, quelque part, tu vois. Donc,
c'est... Oui, je vais juste finir sur Le Pen, avant de passer au programme économique de Macron, c'est que elle a, il y a quand même le vrai visage du Front National qui ressort à travers des choses. Bon, alors je parle pas, évidemment, des émigrés, les pauvres, enfin, ou même des Français de deuxième génération. Mais par exemple, vous voyez, sur la sécurité, il faut supprimer toutes les associations.
Oui.
Eh oui. Mais ne pensez pas, c'est dans les gènes de la politique du Front National de d'éteindre la culture dans toutes les villes où ils sont passés, d'éteindre effectivement le droit de manifester. J'exagère, mais c'est un peu ça. Hein, c'est un pouvoir bien autoritaire.
Évidemment.
D'éteindre tout ce qui est rassemblement, tout ce qui permet une espèce de communauté d'intérêt, de vie sociale. Et puis, tant qu'à faire, vous savez, les syndicats, ils font aussi partie des associations. C'est des associations.
Absolument.
Je rappelle que le gouvernement de Vichy a supprimé les syndicats.
Bien sûr.
Et franchement, à l'écouter hier soir, vous savez, on avait quand même un petit doute, quoi. On s'est quand même dit. Ouais, ça peut quand même être un peu dur, quoi. On peut se réveiller avec un sacré mal de crâne, si on vote Le Pen. Alors concernant Macron, le programme économique de Macron, en l'écoutant bien, écoutez, moi j'ai envie de dire finalement que les gens qui disent que ce sera du François Hollande en plus fort, ont raison. Alors je m'explique, hein. Donc Monsieur Macron finalement veut poursuivre la politique de l'offre,
Plutôt que la demande, bien sûr. Hein.
Voilà. Donc la politique de l'offre, en fait, c'est essayer d'alléger au maximum les charges des entreprises pour soi-disant les rendre plus compétitives, soi-disant. Simplement, on se demande toujours, surtout en période de crise, où peuvent être les débouchés. Alors, je crois que Monsieur Macron a sa petite idée, c'est que les débouchés, en réalité, ne peuvent être qu'à l'extérieur. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de baisser les charges... de l'économie, c'est intéressant dans la mesure où on est soi-disant plus compétitif contre des entreprises étrangères qui n'ont pas le même niveau de charge. Donc c'est l'idée, hein, en fait, de Macron, c'est de rendre les entreprises compétitives vis-à-vis de par rapport à leur vis-à-vis allemand, anglais, etc. Voilà, il reste quand même le problème de la demande. Hein. Il y a quand même beaucoup d'économistes qui estiment que la crise actuelle vient aussi d'une politique de compression des salaires qui date au moins des années 2000, voire des années 90, en fait. Voire même des années 80, en fait. Hein, c'est-à-dire, bon, je vais pas revenir sur ce qu'on a dit à ce micro pendant des années. Alors, le problème de la politique de Macron, c'est que, et on va y revenir sur l'assurance chômage, Monsieur Macron a des bonnes idées. je plaisante, je me permets un commentaire, mais c'est-à-dire que passer l'assurance chômage, la partie de l'assurance maladie, la sortir des cotisations salariales, comme il le dit, pour faire baisser les charges des entreprises, salariales a priori, il a dit salariales. Bon, mais en réalité aussi consentir d'autres baisses de charges. C'est ce qu'il appelle le choc de compétitivité. Un double choc de compétitivité. Et devoir se retrouver... Alors, je rappelle, hein, pour les auditeurs, la retraite sur vos cotisations, c'est 50%. L'assurance maladie, c'est 25%, un quart. Et l'assurance chômage, c'est 11%. 11-12%. L'État ne veut pas... les partenaires sociaux... Enfin, plutôt le MEDEF ne veut pas d'augmentation de cotisation pour combler le déficit de l'assurance chômage. Ça dure depuis, je crois, 83. Depuis 83, on n'a pas augmenté les cotisations. C'est dire. Hein. Les sortir donc effectivement de la feuille de salaire et les porter sur la CSG, ce qui signifie qu'en fait on élargit l'assiette. De l'imposition.
Oui.
Donc on va à la recherche de nouveaux impôts, en quelque sorte, nouvelles ressources, pour les cotiser. Donc l'assiette est beaucoup plus large, mais ça veut dire que vous la payez deux fois, C'est-à-dire que votre entreprise, votre fiche, vous la payez sur votre fiche de salaire, la CSG, mais vous allez aussi la payer sur l'impôt sur le revenu. Les retraités sont mis à contribution. Pourquoi pas? Ça peut rééquilibrer une forme de, voilà. Mais l'assurance chômage plus l'assurance maladie, ça fait quand même des montants très importants. Aujourd'hui, c'est 150 milliards qui sont gérés de fonds, qui sont gérés par l'assurance publique. Donc, la CSG, les impôts sur la CSG, ça va quand même être, ça, dans un premier temps, ça sera pas forcément significatif, mais dans les années à venir, rien ne dit qu'on aura un taux de croissance qui permette à l'État, et en l'occurrence à M. Macron, de tenir ses promesses au point de ne pas augmenter les impôts. Je rappelle que ce monsieur, quand même, est sur une réduction des dépenses de l'État de 60 milliards.
Ah oui.
Pour rembourser 40 milliards de dettes et pour concéder 10 milliards d'allègements de charges, 10 ou 20 milliards d'allègements de charges, 10 milliards d'allègements de charges ou 10 ou 20 milliards aux entreprises et 10 milliards de réduction d'impôts. Donc, décompression des dépenses, plus une augmentation, au minimum un maintien dans un premier temps des impôts actuels, voire en fait plutôt une augmentation et la CSG. Et donc effectivement, la première victime de cette politique, c'est les ménages.
Bien sûr.
Dans un premier temps. Alors certes, il y a la baisse de la taxe d'habitation, certes, il promet des baisses de charges, mais rien sur la feuille salariale, sur les salaires, mais rien n'indique que les baisses de charges vont se retrouver sur
donc
le salaire.
Tu veux dire
sur
le
salaire,
niveau de vie des ménages va baisser automatiquement dans les mois.
Je dis que au vu de la décennie qu'on vient de passer, rien n'indique qu'en fait que la politique de Macron permette, enfin donne les résultats qu'il escompte. C'est-à-dire que rien n'indique la compression des dépenses de l'État, une légère augmentation des impôts sur les ménages dans un pays où la croissance est principalement tirée par la consommation, et au vu des résultats de la politique des 5 ans là, précédents, rien ne dit que la politique de Macron porte ses fruits, c'est-à-dire arriver à 1,8% de croissance tel qu'il l'espère. Et si c'est pas le cas, eh ben ça va être compliqué, ça va être très compliqué, parce que ça veut dire que pour tenir les critères de convergence de Maastricht, c'est-à-dire tenir les 3% du PIB, il sera obligé de faire de nouvelles coupes dans les budgets de l'État.
Bien sûr.
Voire d'augmenter à nouveau les impôts. Et donc, est-ce qu'on sortira du cycle récessif dans lequel on est depuis maintenant 10 ans? C'est pas garanti du tout. Et donc, le vrai problème du programme de Macron, sans parler même de des accords entreprises dont on reparlera plus tard sur l'aspect social, c'est que si en termes de croissance il ne tient pas ses promesses, eh ben ça va être compliqué, et nous pourrions bien avoir une courbe du chômage qui continue à augmenter, parce qu'en fait c'est ça le front de l'affaire. Et bien sûr, il ne s'engage pas là-dessus, puisque il ne sait absolument pas en réalité ce qui lancera réellement. Et donc,
tu as raison, mais moi, alors juste pour finir sur ce sujet, moi il y a un truc qui m'inquiète un petit peu, c'est plus lié à un petit peu au côté un peu de la forme, c'est-à-dire que Macron, en dehors d'élargir l'assiette de la CSG, il élargit l'assiette de son électorat en élargissant l'assiette des gens qu'il va prendre dans son parti. Ça va, il prend des gens comme Madeleine et Villepin.
Madeleine, tu tiens. Je te mettrais qu'il soit dans son gouvernement. Mais...
Non, mais enfin, bon, dans un premier temps, il y a quand même, c'est un peu la bouillabaisse. Hein, un peu tout le monde, dans tous les partis, vont vers Macron pour avoir dans le cadre de la députation. Hein, et c'est un peu, sincèrement, je le dis, c'est mon opinion. Hein, c'est un peu n'importe quoi. Quoi, il y a pas de vision de parti réel, parce qu'avant, jusqu'à aujourd'hui, on avait quand même la gauche et la droite,
oui,
même si la gauche était à droite.
On est hors de parti, ça c'est le aussi. Ah oui. Les partis ne font plus les élections, semble-t-il. Hein. Je rappelle que la France Insoumise n'est pas un parti, qu'elle est à 1% en dehors du FN, hein, et que les partis traditionnels sont quand même tous au tapis. Voilà, tu as raison de. Enfin, il me semble que.
Ben, ça va être très dur pour lui de trouver une majorité.
De trouver une majorité aux élections,
aux élections législatives.
Ouais. La suite, va être compliquée.
Très compliquée. En tout cas, j'espère que vous voterez bien. Votez Poutou, hein, comme tout le monde. Hein. Ah non, il ne se présente pas. Très bien. On met une petite chanson et on reprend la parole après. Merci.
Payez les cafés. Thank you.
ciel est désarmé.
Vous venez d'entendre une chanson écrite et chantée par Julien Clerc et rechantée ici par Joli Môme, donc le fameux groupe de théâtre de Café Théâtre, militant, voilà, donc nous aimons bien dans cette émission. Donc l'émission continue, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. On va certainement être saucissonné après l'élection de ou Marine Le Pen ou de Macron, hein, certainement, puisque c'est les premiers victimes de ce genre de politique, ce sont les plus pauvres. Nous en faisons plus ou moins partie, puisque nous avons quand même des salaires qui équivaut à entre 900 et 2000 euros à peu près, donc c'est vraiment les moyens. Et c'est les riches qui vont bénéficier évidemment des avantages des politiques qui vont être mises en place après cette élection. Donc on va parler maintenant de évidemment de la politique sociale, puisqu'on va parler d'économique chez Macron. Alors la politique sociale de Macron, c'est quand même un refus déjà dans un premier temps, un refus de revenir sur la loi travail proposée par Mélenchon. Hein. Il a dit qu'il ne reviendrait pas sur ce qu'il avait décidé. C'était pourtant faire un signe aux électeurs de Mélenchon pour pouvoir gagner dimanche. Il ne l'a pas fait. Donc s'il perd, il sait à qui en tenir rigueur. Voilà. Qu'en penses-tu, Ludo?
Je pense qu'il va pas perdre.
Tu penses qu'il va pas perdre? Nous espérons
déjà,
qu'il perdra pas.
Il le sait. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que ça c'est rien parce qu'il y a une deuxième loi travail. Donc il est pas revenir sur la première. Oui, c'est la première travail qui est prévue. C'est là qui sera vraiment celle de Monsieur Macron, ouais, pas celle clair, de. Enfin, celle qu'il a inspirée à Madame El Khomri. Et du coup, et ben effectivement, on va, il va pouvoir faire ce qu'il a toujours, son projet. Mon projet, c'est de renvoyer les accords au niveau de
des branches et puis des entreprises.
Des entreprises, non,
non, des entreprises d'abord.
Puis des branches.
Puis des branches. C'est dans
si,
le sens.
Voilà, s'il est refusé. Et oui, mais ça change beaucoup de choses parce que du coup, bon. Alors voilà, hein, bon, on va redire ce qu'on a dit d'habitude, c'est que à titre personnel, puisqu'il veut redonner tout son sens au dialogue social, faut-il que il y ait des choses à négocier dans un dialogue social. Et en ce moment, dans les entreprises, bah, vous voyez, en dehors de la question du salaire et du temps de travail, qui sont quand même les questions fondamentales des salariés, éventuellement d'organisation ou de réorganisation du travail, mais enfin souvent c'est quand
et
même un peu lié.
Les salariés avec les syndicats et puis effectivement le prud'homme et tout ça, il y a quand même.
Ouais,
une
mais
attaque,
ça c'est pas en termes de c'est pas la négociation entre entreprises, hein, c'est le recours. Donc ouais. Voilà. Et du coup, Hamon, il avait fait des propositions dans le sens d'une, enfin inspirées par Piketty, par Thomas Piketty, dans le, que les représentants des salariés soient mieux représentés justement dans les entreprises, un peu sur le modèle de la cogestion à l'allemande. Là, c'est pas le cas du tout, et donc on peut supposer que le rapport de force, alors que un, le rapport de force en cas de dans les entreprises en difficulté sera évidemment bien plus en faveur des patrons. Ça, c'est enfin. Des employeurs, ça c'est probable, qu'il y aura effectivement un chantage à l'emploi et donc à la durée du travail. Et on a quand même vu ce que ça a donné dans certaines entreprises qui ont d'abord négocié des augmentations de travail pour finalement mettre la clé sous la porte, sachant que c'était des filiales dont les entreprises mères se portaient très bien. Hein. Voilà. Donc l'exemple, ça aurait pu être le cas de Whirlpool. Ça n'a pas été, je sais pas, mais ça pourrait être ce cas-là. Donc voilà. Donc évidemment, c'est quand même faire pression indirectement, potentiellement, sur les salaires et sur la durée du travail. Et c'est aussi une façon de détricoter les 35 heures qu'ont mis en place, voilà, les Martine Aubry. Donc effectivement, c'est une forme de déréglementation du marché du travail.
Absolument.
L'air de rien. Et alors, il y a un deuxième effet pervers, c'est qu'il y a aussi une forme de concurrence entre les entreprises, puisque on imagine mal que deux entreprises d'un même secteur et qui se font concurrence pendant que l'une négocie des augmentations de salaire auprès de ses ouvriers, que l'autre ne soit pas tentée de faire la même chose pour rester concurrentielle. Malheureusement. Et donc, on peut tous craindre un alignement vers le bas. Voilà. Donc ça, c'est donc effectivement, c'est pour les employés, pour les salariés, ça risque d'être compliqué quand même dans les mois qui viennent si cette réforme passe. Alors je rappelle hein, qu'il y aura aussi un référendum hein, d'entreprise et qu'effectivement, quand le référendum sera repoussé, il est probable que l'accord passera au niveau des branches et qu'on verra au niveau de la branche. Bon, voilà. Donc ça c'est le mauvais point pour les salariés.
Il y a un mauvais point pour les chômeurs aussi, puisqu'apparemment il y a quand même un principe. Avant, jusqu'à maintenant, on avait le droit à refuser 3 emplois avant d'être radié. Maintenant, ce sera plus que 2 avec cette offre
valable.
Alors,
moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je crois que c'est très théorique en fait. Mais effectivement, ça peut confier l'arbitraire. Hein. Il peut y avoir un arbitraire en fait, c'est-à-dire que ça sera laissé à l'appréciation des pôles emploi et de la politique des pôles emploi. Donc, effectivement, ça peut être une façon de vouloir mettre les gens au travail et d'être appliqué. Mais en principe, enfin, quand les directions de Pôle emploi sont pas complètement débile entre guillemets, enfin pas complètement effectivement c'est très théorique parce que les offres d'emploi elles sont parfois scandaleuses, donc effectivement faut-il avoir réellement la volonté de les appliquer, c'est pas sûr. C'est-à-dire, en revanche, ce qui pose question, c'est effectivement sa réforme de l'UNEDIC, oui. Qui est une qui pourrait être une fausse bonne idée. C'est-à-dire, on ne sait pas du tout ce qu'elle va donner. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Trouver des sources de financement supplémentaires pour les allocations chômage.
Faire une baisse de 9 milliards par tous les ans pour 3 ans.
Non, c'est pas ça. C'est simplement non. C'est juste supprimer le. On en parlait tout à l'heure. Hein, la part salariale des cotisations chômage pour les basculer sur la CSG. Mm. Et ce qui implique 2 choses, c'est qu'on arrive dans son esprit à une allocation unique qui est aussi valable pour les indépendants, les agriculteurs, les auto-entrepreneurs. Donc c'est un plus de ce point de vue-là. C'est une assurance chômage universelle. Et effectivement, il y a urgence en quelque sorte à répondre aux besoins des auto-entrepreneurs. L'entreprise est une vraie arnaque. Donc soit, ça c'est une bonne idée. Mais la conséquence concomitante, c'est la disparition de la gestion par l'UNEDIC de l'assurance chômage, et donc la disparition de ce fameux dialogue social.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est pas assez, a priori qu'on pourrait s'en plaindre, puisque effectivement, on n'a pas vu une augmentation de cotisation chômage depuis X temps, ou alors elles ont tellement été ridicules que voilà, elles sont, on n'a pas trop vu quand même hein, une meilleure indemnisation des chômeurs. Ça s'est pas vu. Non. Donc et puis on a quand même vu toute la négociation dirigée par le MEDEF, qui impose d'abord, ça se passe au MEDEF, et puis le calendrier, la négociation, etc., etc. Donc, vu l'état du dialogue social, qui en définitive est imposé par l'État, en réalité, hein, c'est-à-dire que c'est l'État qui agrée ou pas la convention. Donc voilà. Donc c'est déjà, je dirais pas que c'est une fiction, mais ça marchait pas très bien en tout cas. Donc a priori, pourquoi pas? D'autant que s'il s'agit d'être plus généreux avec tout le monde, c'est une bonne idée. Mais il y a quand même un souci, c'est que, et ça c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, c'est un article de Slate, qui est pas ça pour des extrêmes gauchistes, slate.fr, qui dit qu'effectivement, si on crée une allocation universelle, il est quand même, et qu'elle sera cette fois confiée, elle sera étatisée, en quelque sorte. C'est l'État qui, cette fois, fixera.
L'État à parapluie, c'est ça.
Alors, l'État parapluie, ça reste à voir. Effectivement, ouais. L'État parapluie, a priori, dans l'idée. Et d'ailleurs, c'est un système qui est finalement plutôt, qui se rapproche plus des systèmes nordiques, où Absolument. Les cotisations sociales sont financées par l'impôt, les indemnités, entre guillemets, sont financées directement par l'impôt direct. Donc, on sort d'un système assurantiel.
Absolument.
Pour passer à un système de solidarité, où c'est l'État qui supplée. Très bien. Maintenant, là, je dis ça entre nous, quelqu'un a-t-il vu le RMI, qui est, ou le RSA, qui est strictement un système de solidarité, augmenter au cours des 10 dernières années? Est-ce qu'on l'a vu vraiment augmenter?
Non.
Significativement. Quelqu'un l'a vu là? De mémoire, et ça date de quelques années, le RSA, entre sa création et aujourd'hui, avait perdu 20% de sa valeur réelle par rapport à sa création. Donc, mais 20% de pouvoir d'achat en moins.
Je te coupe, mais normalement, le RSA, RMI ou même le salaire doit augmenter avec le niveau de vie, c'est-à-dire que les fameux 1,5.
Les minima sociaux, non. C'est le SMIC, oui, qui
le
augmente,
SMIC,
non.
D'accord.
Le SMIC réglementairement, non.
D'accord.
Non. Et d'ailleurs, bref, passons. Mais non. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'entre sa création, il concernera plus de monde. Il y a quand même à fort à parier qu'en fait le niveau de l'indemnisation des chômeurs baisse C'est une forte probabilité. Alors il va, tel qu'il est conçu, il est déjà prévu pour les retraités, on passe de 3 ans à 2 ans. C'était ce qui était dans la convention, dans la future convention, UNEDIC. Mais même en termes de niveau, alors que, alors ça reste à vérifier, ça reste à vérifier. Hein. Jusqu'à maintenant, c'était un système donc assurantiel qui était quand même lié au précédent salaire. Quand va-t-il le mettre en œuvre? Et qu'est-ce qui et quel barème il va retenir? Est-ce que ça sera une allocation unique? Bon, c'est, ça c'est des questions. Mais en fait, il y a fort à parier que entre le moment où il mettra en place et où il sera généreux et le moment où il faudra le revaloriser et où ça coûtera quand même un peu plus cher au budget de l'État et où ça ne sera plus assis sur les cotisations sociales des employeurs, eh ben et que ça sera de l'impôt, il est quand même fort possible et qu'au moment d'augmenter les impôts, ben le gouvernement y réfléchisse à deux fois, il est fort possible que le niveau, que l'indemnisation perde sur la durée sa valeur de départ. Et ça reste voilà, et ça reste à vérifier. Voilà, sans parler du coût pour la collectivité.
Alors juste quand même quelques mots avant d'écouter la prochaine chanson. Quelques mots sur quand même sur l'UNEDIC, parce qu'effectivement l'agrément de la nouvelle convention d'assurance chômage signée par la ministre du Travail suite au protocole d'accord signé le 29 mars par les partenaires sociaux, excepté la CGT, prévoit d'économiser, j'avais dit 9 milliards tout à l'heure, autant pour moi, c'était 900 millions par an sur les 3, comme tu viens de le dire, c'est passé à 3 ans, les 3 dernières années, voilà. Les premiers touchés sont donc, ces économies, les premiers touchés seront donc effectivement, comme on le sait déjà depuis toujours, les femmes, les seniors, donc, et les salariés, sous contrat court, hein, voilà. Donc juste, on aurait pu quand même penser qu'une hausse des cotisations patronales, un déplafonnement des cotisations sur les hauts salaires ou encore une hausse du salaire des femmes pour atteindre celui des hommes aurait pu suffire à remplir les caisses. Non, on attaque plutôt les précaires et les pauvres pour pouvoir effectivement économiser sur... On économise encore sur les plus pauvres. Voilà. On écoute une prochaine chanson, on en reparlera ensuite par la suite. Merci.
Ça fait 20 ans qu'on nous explique la lutte de classe s'est dépassée, qu'au nom de la guerre économique, pauvres et riches doivent collaborer. La droite est
dans les affaires. Ne trompe pas de colère,
pas de
racisme.
J'ai choisi de croire et de maintenant, moi, je suis lycéenne. Et je peux rejoindre les révolutionnaires, les travailleurs. Ouais, 100% prolétaires.
Et oui, vous êtes bien. Donc, c'était toujours Joli Môme, mais voilà, un bon groupe sympathique. On reprend cette émission. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis toujours avec Ludo. Bonjour à lui.
Bonsoir.
Pour ceux qui nous prennent en chemin. Et Claude à la technique, bien sûr. Donc, on va finir cette émission par un petit florilège de citations rigolotes. Voilà, dans les temps difficiles qui sont les nôtres, il est quand même bon ton de pouvoir se marrer un petit coup en buvant une bière, si possible. Voilà. Alors, donc ça sort de Cadre et Dirigeant Magazine, plus ou moins. Donc quelques citations. Alors, le chômage a un seul avantage. Les accidents du travail, ils sont rares. Qui a dit ça? Devinez, c'est un concours, hein. C'est Yvan Audouard. Voilà. La meilleure façon de lutter contre le chômage, c'est de travailler. Qui a pu dire ça, Ludo?
Je sais pas.
Raymond Barre. L'assurance chômage pour être sûr de ne jamais retrouver du boulot. Qui a dit ça?
Je ne sais pas.
Ce sont les nuls. Au bout de 15 ans de chômage, on devrait avoir droit à une retraite de chômeur. Georges Wolinski. Hollywood. C'est une plantation d'orangers où se promènent des acteurs au chômage. C'est Groucho Marx. Voilà. La montée du chômage prouve paradoxalement la bonne santé de notre démographie. Jacques Lang. C'est excellent. Alors, après Jacques Lang, c'est « La politique au chômage est à peu près aussi utile qu'une valse sans poignée. » Qu'une valise sans poignée, pardon. Je n'arrive pas à dire. Devine qui c'est ça. Stéphane Benson. Bon, d'accord.
Oui, mais...
Le véritable contre le chômage... Et qu'il n'y ait plus de travail pour personne, mais pour chacun une place dans la société. Albert Jacquard. Et la dernière pour ce qui me concerne. Le chômage est comme une marée noire qui recouvre l'herbe verte là où elle a poussé.
C'est une marée noire, t'as voulu dire.
Une marée noire, pardon, excusez-moi. Oui, une marée noire. Je vois plus clair. Là. Voilà. Et ça, c'est qui? C'est François Giroud.
C'est le meilleur.
Je te laisse la fin des citations.
Alors, oui, le chômage est comme une marée noire qui recouvre l'herbe verte là où elle a poussé. Et oui, pour atteindre la sérénité, il ne faut craindre ni le chômage, ni la pauvreté, ni la mort.
Oula.
Ça, c'est Ostad Elahi. Pour qu'il y ait du chômage quelque part, il faut déjà qu'il y ait du travail. En France, il y a les deux. Seulement quand il y a du travail, les travailleurs se plaignent de travailler. Ça, c'est Coluche. Face au chômage, la solution de la sagesse, c'est que les travailleurs travaillent moins. Oh oui. Et ça, c'est qui?
Ah, je ne sais pas, mais...
Pierre Mauroy.
Non. Ah, c'est pas mal.
Quand tu colles un jeune au mur, qu'il vit le chômage, il ne faut pas s'étonner qu'il se rebelle. Mettre une cagoule et casse tout. Et Miss Roussos.
Ah, ouais, d'accord.
Plus que la faim, la soif, le chômage, la souffrance d'amour, le désespoir de la défaite, le pire de tout, c'est de sentir que personne, mais absolument personne dans ce monde ne s'intéresse à nous. Ça?
Je sais pas.
C'est Paolo Coelho. Paolo Coelho. L'oisiveté est comme la rouille. Elle use plus que le travail. Hé hé. C'est qui ça?
Je sais pas.
Benjamin Franklin.
Ah,
le père fondateur des États-Unis. Sans le travail, comment prétenderiez-vous résister à la mort? Alexandra Viat.
C'est
ça. Pas mal. Ne vous souciez pas d'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. C'est qui ça?
Je ne sais pas. Ça, c'est, bah, c'est beau. C'est...
Tu trouves c'est beau?
C'est super, ça,
ça pourrait être. je sais pas. Ça pourrait être. Oui. Devine qui c'est. C'est Confucius.
C'est Confucius. Ah, c'est excellent.
Je leur dis pour les auditeurs, ne vous souciez pas d'être sans emploi, mais souciez-vous d'être digne d'un emploi. Donc c'est du Confucius. Hein.
C'est
très... Il a dit quelques conneries des fois.
Pas mal aussi.
Le travail, c'est la vie, et sans lui, il n'y a que peur et insécurité.
Ouais.
Qui a pu dire ça?
Je ne sais pas.
Alain Madelin? Non. John Lennon.
John Lennon,
ouais. Ouais. Donc, quoi. Le travail ne peut être une loi sans être un droit. Waouh.
Waouh.
Le travail ne peut être une loi sans être un droit. Ça, c'est fort.
C'est qui ça?
Victor Hugo.
Ouais.
Quand les gens ont été payés trop longtemps à ne rien faire, on ne peut pas leur demander du travail sans les augmenter. Quand les gens ont été payés trop longtemps à ne rien faire, on ne peut pas leur demander du travail sans les augmenter. C'est Raymond Caston.
D'accord.
Les salariés sont les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, ce sont des chômeurs en puissance. Michel Audiard.
Ah oui.
Nous ne pouvons pas à la fois vivre dans la crainte de perdre notre emploi et être capables d'assumer la responsabilité de notre tâche. Peter Drucker. À la télé, ils disent tous les jours, il y a 3 millions de personnes qui veulent du travail, c'est pas vrai, de l'argent leur suffirait. C'est qui?
Je sais pas.
Coluche. Qui n'est jamais tombé, n'a pas... une juste idée de l'effort à faire pour se tenir debout. Multaluidi. Multaluidi.
Eh ben, j'en rajouterais peut-être une seule qui est quand même assez intéressante. C'est celle de, on va trouver qui c'est après. Elle disait que le travail devait être précaire parce que la vie est précaire et le reste est précaire.
Et l'amour est précaire.
Et c'est qui?
Florence Parisot.
Florence Parisot, qui d'ailleurs se présentait peut-être pour être Premier ministre, mais apparemment c'est une rumeur qu'elle a démentie par la suite. Merci Ludo, en tout cas, tu as été excellent ce soir comme d'habitude. Merci à Claude pour la technique. Je vous rappelle quand même que je vous remercie en tout cas, chers auditeurs et auditrices, d'avoir suivi cette émission. Elle se termine maintenant. Bien sûr, votez bien dimanche pour Poutou. Hein, je plaisante. Votez bien dimanche et n'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est Attaque, si ma mémoire est bonne.
C'est Attaque.
C'est Attaque. Et dans un mois, c'est un nouveau mode d'emploi d'ACG Ensemble contre le chômage. Restez vigilants et surtout allez dans la rue pour vous manifester parce que je crois que les temps qui vont venir sont très durs.
Vive le troisième tour social.
Vive le troisième tour social. Merci à tous. Je vous dis dans un mois. J'embrasse les filles et je fais une grosse poignée de main aux garçons. Ciao.
Bonsoir.